de l'Avent, ce temps qui est non pas pour seulement pour attendre Noël, mais pour se préparer aussi, préparer nos cœurs dans l'attente qui est la nôtre aujourd'hui, dont nous avons déjà parlé ce matin. Si je faisais un petit jeu ce matin de vous demander à tous de compter une minute, je pense qu'on aurait tous un résultat différent. On arriverait à... On a du mal à garder le temps, certains vont aller trop vite, certains vont aller plus lentement. Pour certains, une minute paraît très longue, pour d'autres, une minute, c'est court. Et c'est vrai, est-ce qu'il y a une différence entre être lent et être patient? Et en ce premier dimanche de l'Avent, disons, je me demande à quel point est-ce que nous sommes patients quand il s'agit d'attendre. Comment est-ce que nous vivons les attentes? Est-ce que, par exemple, vous avez déjà décidé de manger patiemment un chocolat par jour dans votre calendrier de l'Avent, si vous avez encore des calendriers de l'Avent à chocolat, parce qu'il y en a tellement d'autres, ou si vous n'en avez pas? Ou est-ce que toutes les fenêtres seront ouvertes dès ce soir? Est-ce que vous êtes de ceux qui résistent à jeter un coup d'œil aux cadeaux qui sont sous le sapin? Et à quel moment est-ce que vous décorez votre maison, si vous la décorez, bien évidemment? Quand est-ce que vous avez commencé à peut-être regarder un film de Noël ou écouter de la musique de Noël? Est-ce que nous ne sommes pas pareils? Et puis, peut-être que vous ne faites aucune de ces choses. Mais en règle générale, est-ce que vous êtes patient ou impatient? Est-ce que parmi vous, certains lisent la fin d'un livre avant de l'avoir terminé pour savoir ce qui se passe? Est-ce que vous êtes facilement irritable, irrité dans une file d'attente? Et le temps de l'Avent, c'est un rappel de l'attente qui était celle du peuple d'Israël alors qu'ils attendaient le Messie. Et l'Avent est un rappel aujourd'hui qui est de l'attente qui est la nôtre, alors que nous attendons le retour de Christ, son avènement, lorsqu'il apportera la plénitude de son royaume sur terre. Si nous sommes honnêtes, beaucoup d'entre nous peuvent avoir du mal avec cette idée de l'avènement du Christ, parce qu'on a du mal à... juste parce que on n'arrive pas à se faire une idée vraiment de ce qui va se passer à ce moment-là. Peut-être que nous avons entendu des enseignements qui étaient un peu déroutants, effrayants même. Chacun a peur de ce qu'il ne connaît pas. Nous avons peur de ce que nous ne comprenons pas. Il est normal d'avoir une certaine inquiétude face à l'inconnu. D'autres croyants semblent plutôt obsédés par l'idée du retour de Jésus et ne pensent qu'à ça. D'autres ignorent complètement l'idée de sa seconde venue. Et cela fait 2000 ans que Jésus est retourné auprès de son Père. Il est donc compréhensible aussi de perdre de vue cette réalité, cette urgence, cette imminence du retour de Christ. Et nous lisons aujourd'hui un passage en 1 Pierre 3, les 15 versets de 1 Pierre 3. Les 15 premiers versets de 1 Pierre 3. Et c'est un passage qui nous apporte de quoi répondre à notre besoin de nous rappeler, de nous souvenir et de résister à la tentation de céder au doute. Je vous invite à lire donc 1 Pierre 3, versets 1 à 15. Bien-aimé, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs, pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront : Où est la promesse de son retour ? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ? Attendez et hâtez la venue de Dieu, du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera, où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. Où est la promesse de son retour ? Où est-elle, la promesse de son retour ? Beaucoup des premiers chrétiens vivaient dans l'attente ardente du retour de Jésus, de leur vivant, imminente. Mais après quelques années seulement, certains d'entre eux ont commencé déjà à perdre espoir. Nous pouvons le voir dans notre passage. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs. Ces hommes viendront en suivant leur propre désir et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Cela fait quelques années qu'ils attendent le retour de Christ qu'ils croyaient imminente. Et il ne se, semble-t-il, ne se passe pas grand-chose. Certains de nos contemporains font partie de ces moqueurs qui voient l'Église attendre depuis 2000 ans le retour du Messie et se raillent de nous. Et encore s'il ne se moquait que de cela. Mais il voit que le monde ne change pas, les guerres succèdent aux guerres. Il voit que la corruption et l'appât du gain et du pouvoir continuent de diriger les sociétés. Il voit la souffrance, l'injustice, la pauvreté. Et c'est avec un certain dédain qu'ils entendent parler d'un Dieu créateur, un Dieu de paix, d'amour et de justice. Dans leur ignorance, et parce qu'ils suivent leurs propres désirs, ce sont les mots de Pierre, ils concluent que la foi et l'espérance en Dieu n'est que pour les faibles, les naïfs, les ignorants, les pauvres, et les malheureux qui ont besoin d'une béquille pour supporter leurs circonstances difficiles, ou ont besoin d'histoire pour soulager leurs peurs les plus existentielles, la crainte de la mort en particulier. Ce sont ces moqueurs dont parle Pierre, qui observent en spectateurs, car ils refusent de croire et de rejoindre le chemin. Ils observent de loin, en spectateurs. Pourtant, se mettre en route avec nous, entrer sur le chemin, leur permettrait de voir ce que nous voyons. Ils restent en spectateurs. Certains connaissent même les Écritures, certains connaissent la Bible, mais n'en lisent que certains passages, Ils lisent que ce qui les arrange, ils ne lisent que les pages qui leur plaisent, comme on fait avance rapide dans un film qui nous ennuie, ou pour passer certaines scènes. Ils en lisent quelques morceaux. Et pourtant, c'est important d'avoir l'ensemble de l'histoire, l'ensemble du plan, ne pas mettre de côté certaines choses. Le risque, lorsque nous sautons un passage de la Bible, le risque est que nous avancions rapidement sur quelque chose, le risque est de rater un élément, un événement, une parole qui aurait permis de comprendre la suite. Si l'on ne prend pas toute la Bible dans son ensemble, il y a toutes sortes d'éléments, parce qu'on ne les comprend pas, parce qu'ils ne nous plaisent pas, qui nous empêchent de comprendre ce qui se passe. Et Pierre met le doigt sur cette erreur précise qui est celle des moqueurs, qui n'ont pas compris le sens des événements du passé. Ils ont lu Moïse, ils ont lu les prophètes, mais ils n'ont pas compris. C'est une erreur qu'il cite, un exemple parmi d'autres arguments erronés qui pourraient être avancés. Où est la promesse de son retour ? Regardez, le monde ne change pas. La situation est toujours la même. L'injustice règne, la corruption, l'autorité, le pouvoir mal placé. En disant eux-mêmes que depuis le début de la création, rien n'a changé. Ils font preuve de leur ignorance et ils se coupent l'herbe sous les pieds. Ils oublient, et Pierre de le rappeler, ils oublient l'épisode du déluge, où Dieu a fait en quelque sorte table rase de la création en submergeant d'eau la terre. Ainsi, la création elle-même est aujourd'hui réservée pour le jour du jugement, où là, alors, le feu sera le moyen utilisé par Dieu pour purifier toute la création, pour la rendre pure comme l'or. Ainsi, les années, les siècles, les millénaires qui s'écoulent ne sont pas la preuve de l'inexistence de Dieu. Elles sont la preuve de la patience de Dieu. Car Dieu est patient envers nous. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, dit Pierre au verset 9, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous. Savoir que Dieu est patient envers nous devrait remettre en question l'impatience et le rythme effréné de nos vies modernes. La patience de Dieu, c'est ce qui nous est rappelé en ce temps de l'Avent, cette patience envers nous. Le fait qu'il agisse avec patience. Alors que nous avons souvent l'impression de passer rapidement d'une chose à l'autre, de nous précipiter toujours. Nous ne sommes pas patients. Je suis la première à être impatiente lorsque mon ordinateur met une minute de trop pour télécharger un document. Je ne suis pas très patiente avec les enfants. Cela dépend des moments. Et peut-être devons-nous apprendre de la patience de Dieu, un peu plus de patience pour nous aussi. Oui, nous nous rappelons combien il est patient envers nous. Et Dieu a une raison vitale pour laquelle il retient son retour. Une raison vitale qui tient à la vie. Une question de vie ou de mort. Il connaît son plan. Il sait la raison de son attente patiente. D'abord, vu que 1000 ans sont comme un jour et un jour sont comme 1000 ans, il n'y a pas d'impatience à avoir. En fait, finalement, on parle de la patience de Dieu, mais Dieu n'éprouve pas de patience ou d'impatience face au temps qui passe. Car sa notion du temps qui passe n'a rien à voir avec la nôtre. Il ne regarde pas son calendrier cosmique en se disant, bon, 2000 ans, ça commence à faire. Peut-être qu'il est temps. Non, il est dans notre temps d'une manière qui nous dépasse, qui est différente de la nôtre. Alors, finalement, est-ce que nous pouvons vraiment comprendre la patience de Dieu dans un temps temporel? Non, c'est plus de patience par rapport à nous, par rapport au temps que nous avons besoin, dont nous avons besoin. Parce qu'il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Notre Dieu est patient envers nous. Ailleurs, il est dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Pierre savait que le retour final de Jésus viendrait avec un jugement sur la terre. C'est un jour de joie, mais c'est aussi un jour de jugement. Lorsque Christ reviendra, ce jour-là sera un jour de jugement et de perdition des hommes impies. Lorsque nous sommes au bénéfice de la grâce, lorsque la croix et la résurrection de Jésus ont un sens pour nous, que nous reconnaissons, que nous acceptons, alors nous ne craignons pas ce jugement. Mais entrer dans le royaume de Dieu exige que nous croyions en lui et que nous repentions. Et pour cette raison, Dieu retient patiemment le retour du Christ, afin que chacun sur la terre ait la chance de répondre à son don de pardon et de restauration. Oui, nous prions, Seigneur, viens bientôt, reviens, nous t'attendons. Mais d'un autre côté, ne sommes-nous pas heureux qu'il retienne son bras, qu'il soit patient, afin de donner le temps à nos bien-aimés, à nos enfants, à nos parents, de pouvoir entrer avec nous dans le royaume de Dieu. Pierre décrit le jugement de Dieu comme ceci. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Pour diverses raisons, ce passage a été mal interprété comme signifiant que Dieu va détruire la terre. Et cela a alimenté l'idée erronée que l'espérance chrétienne ne consiste qu'en un ciel spirituel. Mais cette idée ignore l'image biblique plus large sur laquelle Pierre s'appuie également. C'est la promesse d'Ésaïe d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre. Pierre précise, mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est le même nouveau ciel et la même nouvelle terre que Jean voit dans l'Apocalypse. Et la question importante, je pense que vous l'avez déjà entendue, la question importante est de quelle nouvelle il s'agit effectivement. Il existe un mot grec néo, qui signifie nouveau, donc c'est un rappel, peut-être un rappel pour certains, mais il y a un mot grec qui signifie nouveau, dans le sens où il n'était pas auparavant, il n'existait pas auparavant. Mais dans ce passage, ce n'est pas ce mot-là qui est utilisé. Pierre et Jean, dans l'Apocalypse, utilisent le mot « kainos », ce qui signifie avoir une nouvelle qualité, être de renouveler, en fait, refait. On donne une nouvelle qualité à ce sujet. C'est le même mot qui décrit notre transformation en tant que chrétien, en 2 Corinthiens 5, 17. Vous êtes une nouvelle création. L'ancienne vie pécheresse est brisée et partie, et la vie renouvelée, sainte et restaurée est arrivée. C'est le même mot qui décrit la nouvelle alliance lorsque l'on parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est l'alliance de Dieu avec son peuple qui est renouvelée différemment. Dieu n'a pas l'intention de tout mettre à la poubelle et de recommencer à nouveau. Il a l'intention de l'affiner, de la refaire, de la renouveler, de la glorifier. La Bible parle souvent du jugement de Dieu comme un feu purificateur qui va purifier toutes les impuretés. enlever chacun des grains de sable dans l'argent. Malachie 3, versets 2 à 3 dit « Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout lorsqu'il apparaîtra ?» En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Le jugement de Dieu est un feu qui raffinera la terre. Raffiner. Quel mot. Raffiner la terre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de l'or pur. Ainsi, l'image que Pierre peint ici est celle du jugement final de Dieu, brûlant tout ce qui est injuste, tout ce qui est impur, tout ce qui est impie, dénudant la terre jusqu'à ce que l'ancien ordre des choses ait été détruit et que l'intention originelle de Dieu ait été restaurée. Dans l'Apocalypse, la cité de Dieu descend du ciel sur la terre. L'ancien ordre des choses a disparu et Dieu promet d'être avec nous sur cette planète restaurée pour toujours. Comme Pierre, comme Paul, nous attendons le retour final de Jésus tout en sachant que ce jour-là sera un jour de jugement et de perdition pour ceux qui sont loin de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'aucun ne périsse, alors il attend patiemment, il attend rempli de compassion envers ceux qu'il aime déjà. Ne nous laissons pas avoir par les remarques moqueuses, railleuses. Mais où est donc votre espérance? Où est tout ce que Dieu a promis et que vous attendez? Parce que ce qui se passe en ce moment, nous sommes dans le temps de la patience de Dieu et nous attendons dans cette patience de Dieu. Et nous sommes appelés donc à être patients, comme cela nous a été rappelé. Mais cette patience, cette attente est active. Par amour pour nos prochains, pour ceux qui encore ont la chance de pouvoir se tourner vers Dieu, nous devons attendre patiemment le retour de Christ, patiemment mais activement. Chaque jour qui passe, bien que le monde soit en souffrance, oui. Bien que la création gémisse et crie à Dieu, oui. Chaque jour qui passe donne l'occasion à certains de se repentir et de faire la paix avec Dieu. Nous savons ce que nous attendons. Nous attendons, nous pouvons nous réjouir dans cette attente. Nous nous réjouissons dans cette attente que symbolise ce temps de l'Avent. C'est un sujet de joie. Nous attendons, certes, nous attendons patiemment, certes, nous attendons de manière active, parce que nous avons été appelés à œuvrer, à nous affirmer dans notre foi, à grandir dans notre connaissance de Dieu et dans notre transformation intérieure, dans la sanctification. Et lorsque nous attendons quelque chose, certains attendent plus ou moins bien, eh bien, savoir ce que nous attendons change complètement la donne et la manière d'attendre. Un enfant qui attend un cadeau de Noël a une attitude différente d'un enfant qui attend chez le dentiste. Attendre est différent selon ce qu'on attend. Vous attendez le jour de votre mariage d'une manière très différente de l'attente du contrôle technique de votre voiture. Qu'est-ce que nous attendons? Nous savons ce que nous attendons. Nous savons que nous n'attendons pas de passer l'éternité assis sur des nuages. Nous n'attendons pas un culte qui dure l'éternité avec un sermon infini. Nous attendons la restauration du ciel et de la terre, où chaque chose bonne sera restaurée en une vie nouvelle et abondante pour tous. Et savoir ce que Dieu fera lorsque Jésus reviendra devrait changer notre façon de vivre aujourd'hui. Nous savons ce que nous attendons et cela a un impact aujourd'hui même. Pierre écrit « puisque tout notre monde doit être dissous. Combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, écrit Pierre. Grandissez dans la grâce et la connaissance que nous donne la parole, éclairée par son esprit en nous. Et nous sommes appelés à attendre activement la vie éternelle. Il n'est pas question de simplement accepter le statu quo sur cette terre en attendant des jours meilleurs. Il ne s'agit pas de se mettre dans un coin, de se terrer, d'hiberner jusqu'à l'avènement de Dieu, de Jésus-Christ. Si la Bible encourage les faibles à placer leur espérance en Dieu, nous les faibles, la Bible encourage donc encourage tous les faibles, les pauvres, les petits de ce monde à placer leur espérance en Dieu. Mais d'un autre côté, la Bible est sans... Elle est intransigeante, elle ne transige pas. Elle fustige ceux qui exploitent les faibles, placés sous leur responsabilité. En effet, chaque être humain a aux yeux de Dieu et donc des nôtres la même valeur, quelle que soit sa valeur sociale, quel que soit son statut légal, son âge, son sexe, son état de santé. Chaque être humain a aux yeux de Dieu la même valeur. Et donc, en tant que chrétien, par exemple, il n'est pas question d'encourager un système, quel qu'il soit, s'il engendre l'oppression des petits, s'il favorise les plus forts, s'il favorise l'injustice ou les inégalités. Et s'il n'est pas question de l'encourager, il est encore moins question pour nous de participer à ce système où les êtres humains ont des valeurs inégales. Oui, nous savons où nous allons. Nous savons ce que nous attendons. Et puisque c'est notre but ultime, dit Pierre, voici comment nous devrions vivre. Et Paul même dit en Romains 2, verset 4, que la bonté de Dieu envers nous nous pousse à changer d'attitude, à vivre de manière à plaire à Dieu, en nous attachant à ce que dit la Bible pour ne pas, comme les moqueurs, les railleurs, rester dans l'ignorance, mais grandir dans notre connaissance de Dieu. Ainsi, nous voulons imiter Jésus en tout, travailler pour le bien de sa création, construire la communauté et la société, rechercher la justice et l'équité selon les valeurs de Dieu. Plus que tout, nous cherchons activement à communiquer le royaume de Dieu dans notre façon de parler et de vivre. Et ainsi, en communiquant le royaume de Dieu, en annonçant sa parole, en proclamant la bonne nouvelle, non seulement nous la proclamons, mais nous accélérons sa venue. Nous sommes encore dans le temps de la patience de Dieu. Et nous sommes appelés à attendre. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Mais c'est encore là. Nous sommes dans le temps de la patience de Dieu envers nous, envers notre prochain, quel qu'il soit. Mais jusque à quand, Seigneur, permettras-tu cela? Oui, nous attendons ce jour où nous serons ensemble, nous nous reconnaîtrons et nous pourrons vivre de cette vie complètement renouvelée, tous ensemble dans la joie du peuple de Dieu. Le temps de l'Avent, c'est une attente rappelée, renouvelée peut-être, où nous préparons notre cœur à sa venue. Préparons notre cœur à la venue de Christ que nous attendons depuis, oui, 2000 ans. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, chaque année, nous nous retrouvons au temps de l'Avent avec un partage de joie et d'impatience. De joie, car ce temps de l'Avent est un rappel de ce que nous attendons. Ô, viens bientôt, Emmanuel. Ô, viens bientôt. Tu nous l'as promis et nous attendons avec joie, avec anticipation de cette joie pleine qui sera la nôtre en ta présence. Chaque année, nous nous retrouvons dans ce temps où tu nous rappelles à quel point nous devons orienter toute notre vie en fonction de cette finalité, en quelque sorte, que nous attendons. Donne-nous de prendre le temps en ce mois de décembre pour être des lumières, pour être des disciples aimants, pour tendre la main vers notre prochain. Et que ton esprit inspire nos paroles pour que nous puissions encourager, entourer nos amis, nos voisins, nos collègues, à regarder au vrai sens de cette fête. Seigneur, merci parce que nous voyons que dans ta parole, tout ce que le peuple juif attendait a été accompli. Nous voyons que tu es fidèle et que tes promesses se réalisent. Nous savons que tu règnes sur la terre, que tu es souverain encore aujourd'hui même et que tu le seras pour toujours, d'éternité en éternité, toi le Créateur. Merci parce que nous voyons dans ta parole que tu ne faiblis pas et que tes promesses sont oui et amen. Et qu'ainsi nous pouvons marcher avec assurance affermie dans notre foi de ce que nous attendons arrivera. Et en attendant, tu nous donnes la force, tu nous donnes l'inspiration, la motivation, l'énergie. Et nous voulons regarder à toi. Sois glorifié en cette période d'avant, cette période de Noël qui arrive. Sois glorifié, que ton nom soit élevé par de nombreuses communautés, par tes enfants, par ton peuple entier. Que les chants d'allégresse résonnent partout dans le monde et fassent entendre à toutes les nations ta grandeur, ta fidélité, ton amour et tout ce que tu as donné à ceux qui te suivent. Oui, nous attendons, jusqu'à quand nous ne savons pas. Oui, nous crions à toi. Oui, beaucoup de tes enfants aujourd'hui même crient à toi pour leur délivrance et leur libération. Avec eux, nous voulons, oui, implorer, Seigneur, de nous aider à garder le cap malgré nos circonstances, car tu es un Dieu juste, un Dieu saint, et que tu veux renouveler toute chose pour la gloire de ton nom et l'établissement total de ton royaume sur cette terre. Ô, viens bientôt, Emmanuel. Ô viens, nous t'attendons. Donne-nous la force. Nous t'en prions.